Sud Radio, l'œil de l'expert.
On est en ligne avec Thomas Romer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Vous êtes également membre du comité d'experts jeunes publics du CSA. Et ce matin, on est très heureux de vous avoir pour parler de cette loi qui a été déposée par le député du Bas-Rhin, Bruno Studer, qui vise à encadrer les vidéos d'enfants qui se développent depuis plusieurs plateformes, depuis plusieurs années, pardon, sur les plateformes de partage pour protéger les enfants. Hier, on avait un extrait justement qui nous racontait que ces enfants, un son qui nous racontait que ces enfants sont assez nombreux. Est-ce que vous avez un chiffre précis de ces enfants youtubeurs? Et racontez-nous un petit peu qui ils sont, ce qu'ils font et quel est le problème?
Alors, l'éternelle question des chiffres, assez compliquée, je ne vous cache pas, au regard de la taille de l'écosystème. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur et pour lequel il est assez compliqué au final d'obtenir des chiffres précis et de se balader un peu sur toutes les plateformes pour aller comptabiliser le nombre d'enfants qui sont exposés. Le cœur du problème, nous, on l'a décelé il y a de ça déjà 3 ans, un peu plus même, lorsqu'on surveillait déjà ce phénomène qui nous vient des États-Unis, faut le rappeler, c'est ce qu'on appelle de l'unboxing à la base, donc littéralement ouvrir des cartons, des boîtes. Et ce phénomène a pris beaucoup d'ampleur il y a de ça quelques années. Et du coup, on a décidé, au regard du nombre de chaînes qui avaient tendance à se multiplier, tout simplement de s'emparer du sujet, d'alerter les médias et puis également de déposer des recours en justice. Tout simplement, non pas pour jouer les troubles faits ou tenter une quelconque moralisation de cet espace numérique, mais plus de dire, voilà, au regard des quantités de vidéos qui sont publiées chaque mois par ces familles, souvent à l'initiative de leurs parents, des parents à la base, eh bien, il nous semblait assez intéressant de questionner la question du travail illicite, dans la mesure où ces enfants, en fin de compte, jouent des rôles de comédiens à disposition de leurs parents pour pouvoir faire de la publicité en ligne, appelons les choses par leur nom. Et ça nous semblait quand même quelque peu surprenant que tout ça puisse se passer tranquillement alors que les chaînes de télévision, de radio sont soumises à des contrôles très stricts quand il s'agit d'utiliser des enfants à l'antenne, à l'image, que la publicité concernant la nourriture ou les jouets est parfaitement encadrée. Et donc, on a demandé à notamment Bruno Studer, le député, de regarder ça. L'idée n'étant pas d'interdire, mais plus de contrôler et d'encadrer ce travail des enfants afin qu'ils puissent tout simplement encore bénéficier de leur vie d'enfant.
Mais qu'est-ce qu'ils font exactement ces enfants? Moi, j'avoue que j'ignorais. Alors, on va peut-être écouter le son que vous nous avez passé, Gilles, hier, qui est un extrait de
BFM, oui. Auquel également Thomas Romer a participé. C'est un sujet de BFM sur la loi qui est promulguée aujourd'hui, il faut le dire. Ouais.
Il s'appelle Swan et Neo, Gabin et Lily, Ellie's Magic World, Studio Bubble Tea ou encore Mademoiselle Sabina. Si vous ne les connaissez pas, sachez que ce sont tous des influenceurs. Leur particularité, c'est qu'ils sont mineurs. Mais ils peuvent gagner énormément, jusqu'à 150 000 euros par mois.
On ne pourra plus simplement faire travailler un enfant sur YouTube sans respecter un certain nombre de règles qu'on doit respecter, observer lorsqu'on fait travailler un enfant dans un film ou dans une comédie.
150 000 euros par mois. Alors, qu'est-ce qu'ils font exactement? Moi, j'avoue que je ne connaissais pas Swan, Neo. Hier, des auditeurs, auditrices nous ont dit, j'ai demandé à mes enfants, évidemment, ils les connaissent. Alors, ils font quoi dans ces vidéos? Ils font de la publicité, en fait, de ce que j'ai compris.
Dans ces vidéos, si vous voulez, le point de départ, c'est d'ouvrir des boîtes. Donc, ça peut être des jouets, ça peut être aussi de la nourriture. Évidemment, je vous cache pas que c'est rarement des repas gastronomiques. C'est plutôt de la snack food. Ils font aussi quelques petits sketchs, parfois des mises en scène qui sont demandées ça et là par leurs parents. Parce que l'enjeu, il est là, c'est que ces chaînes, elles sont nées à l'initiative d'adultes. Aucun gamin de 3 ans ou de 5 ans ne se dit un jour, tiens, je vais mettre une caméra face à moi et je vais ouvrir des boîtes de jouets. Non, ça n'existe pas. Donc, tout ça a été mis en place par des parents qui ont vu évidemment l'appât du gain. En effet, le chiffre qui était annoncé, c'est un chiffre que nous, on avait pu obtenir en discutant avec certains youtubeurs, 150 000 euros mensuels pour les familles qui ont la plus grosse audience. Plus les contrats publicitaires, parce que derrière il y a des contrats publicitaires. Là, on parlait uniquement de monétisation. Donc voilà, ils ouvrent des jouets, ils font des challenges, ils font des cache-cache dans des parcs d'attractions. C'est bien connu, tout le monde va dans un parc d'attractions pour faire des cache-cache. Hein, faut avoir les moyens quand même. Et donc voilà. Donc après, si vous voulez, on n'est pas là pour dire, quel serait mon rôle moi de dire ses parents agissent bien ou mal. Je dis juste que ça donne un exemple, ça renvoie une image d'enfants qui sont un petit peu manipulés, qui sont des objets, des panneaux publicitaires ambulants, et avec toujours ce cocktail un petit peu particulier dès qu'on parle d'influenceurs sur Internet, à savoir le culte de l'image et de l'argent.
Mais alors, comment vous allez faire la différence entre un enfant de 8 ans qui va dire « Oh, trop cool, regardez mon pull pour mes 8 ans ou mon gâteau d'anniversaire » et qui va le faire devant la caméra parce que tout le monde fait des Insta, tous les enfants font des Insta, font des Facebook Live,
font
des
YouTube. Dans le côté professionnel.
Et là, de ce coup-là, et à côté, comment remarquer qu'un enfant dit « Oh, regardez mon pull, il est génial pour mon anniversaire » à part que le pull a été envoyé par la Redoute. Comment vous allez faire la différence, comment vous allez être contrôlé et qu'est-ce que risquent ceux qui font travailler leur enfant que dit la loi, cette nouvelle loi donc ?
Alors, vous avez raison, les pratiques numériques sont très évolutives. Maintenant, je rappelle aux parents qui nous écoutent qu'en l'état actuel des choses, des textes de loi en vigueur, un enfant de 13 ans n'a rien à faire sur un réseau social. Bah. C'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Alors, je sais qu'ils y sont bien plus tôt, mais vous avez un règlement européen qui s'appelle le RGPD qui dit qu'avant 13 ans, un enfant n'a absolument pas à être sur un réseau social. Et on voit bien que ces textes de loi ne sont absolument pas respectés ni appliqués, que ce soit par les plateformes ou que ce soit par les parents eux-mêmes qui laissent souvent leurs enfants aller s'inscrire et se créer des comptes. Après, sur les pratiques, je rebondis sur ce que vous dites, vous avez tout à fait raison, ça va pas forcément être très simple. Maintenant, je vous cache pas qu'en termes d'audience, de marketing, de construction de la chaîne, des images, des logos qui sont utilisés, des sons, etc., on voit tout de suite quand ça bascule dans une forme de professionnalisme. Et je pense qu'on pourra faire la distinction entre un enfant qui, en effet, fête son anniversaire et qui se filme avec ses copains, ceux qui sont en train de promouvoir des produits. Je peux vous assurer, allez voir ces chaînes, on voit vraiment bien la différence. Ça, c'est plutôt assez flagrant, ça saute aux yeux. Après, la loi, que va-t-elle proposer? Elle va juste dire, voilà, elle va se fonder sur un texte qui existait déjà, en fait, depuis notamment l'affaire Jordi, qui avait quand même marqué les esprits. Jordi, chanteur très célèbre.
Du dur d'être un bébé pour ceux qui sont d'une certaine époque.
Exactement, ça ne nous rajeunit pas, mais Jordi avait connu un petit peu une situation équivalente avec l'un de ses deux parents, je me souviens plus lequel, qui était parti avec la caisse de tous les revenus engrangés par la vente de ses disques. Ouais. De mémoire, c'est ça. Suite à ça, on avait amélioré les textes de loi en vigueur en France, et notamment, on avait prévu un texte qui venait définir et encadrer, et ça concernait tous les enfants intermittents du spectacle, en fait, le volume horaire des enfants qui pratiquaient ce genre d'activité, donc c'est-à-dire avec un volume horaire relativement restreint au regard de leur âge et de leur vulnérabilité. C'est le cas aujourd'hui encore, hein, tous les enfants qui travaillent dans le cinéma, à la télévision, dans les séries ou même dans les comédies.
C'est très réglementé, ça.
Tout à fait.
Mais alors, ça veut dire quoi ? Qu'il y avait un vide juridique en ce qui concerne les plateformes ?
Complètement, Valérie. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. Il y avait un vide juridique, ce qui est assez logique puisqu'on est face à des... Là, j'en veux pas trop au législateur, si vous voulez. On tape souvent sur le législateur, mais ce sont des pratiques qui sont complètement nouvelles, qui se développent très, très vite. Et il a fallu un petit temps d'adaptation, ce qui a été fait. Et ce que je trouve qui a été plutôt intelligemment fait en France, c'est que plutôt que d'aller recréer un nouveau texte de loi, si vous voulez, on est parti de l'existant pour les enfants intermittents du spectacle. Ouais. On a cherché à l'appliquer à l'univers numérique.
Oui. Mais quand on dit qu'il gagne 150 000 euros, en fait, l'argent, puisque j'imagine, on peut avoir un compte bancaire enfant, mais l'argent était versé aux parents. Donc, c'était ça aussi qui causait problème. Là, l'argent sera bloqué.
Sur un compte, comme pour les enfants comédiens ?
Exactement. L'idée, c'était de reprendre exactement les mêmes dispositions qui existaient préalablement dans le Code du travail concernant les enfants, à savoir de bloquer également l'argent jusqu'à la majorité des enfants sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations, ce qui leur permet d'être certains de pouvoir toucher normalement, si tout va bien, l'argent lorsqu'ils sont grands. Et ça, c'est ce qu'on a demandé et ce qui figure également dans la loi. Il va également y avoir des chartes qui vont être mises en place prochainement entre les grandes plateformes et l'État par le biais du CSA pour contrôler, améliorer tout ça. Et nous, ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on a vu qu'au final, il y a une espèce de bonne pratique qui commence à se mettre en place, et notamment YouTube a commencé vraiment à réfléchir et à faire changer leurs conditions générales d'utilisation. Aujourd'hui, quand on crée une chaîne YouTube, on est obligé de dire si la chaîne va s'adresser à un public de mineurs ou non, et du coup, les conditions de monétisation des chaînes varient.
Ouais, alors, il y a une zone grise qui est celle des chaînes familiales. J'avais lu un article absolument terrifiant, je crois que c'était dans Le Parisien, qui racontait l'histoire de cette famille. YouTube avait viré au cauchemar Adrien et Maëva, qui auront pendant des années exposé leur vie familiale avec les enfants qui faisaient partie de leurs vidéos. C'est-à-dire qu'ils montraient toute leur vie quotidienne. Et là, ça va être compliqué si les parents se mettent en scène et que ce sont eux qui...
Et juste parce que vous êtes également membre du comité au CSA, vous avez une émission qui s'appelle « Les mamans et les enfants », c'est-à-dire c'est les mamans de télé-réalité sur... Alors c'est un carton, hein, sur TF6 et sur Sister. On voit la vie des mamans de télé-réalité avec leurs enfants, c'est exactement la même chose. Hein. Les enfants ont 4-6 ans, où vous avez encore les enfants sur TF1 tous les soirs, vous savez, les grandes familles de 10-15 enfants. Et là aussi, je pense que les parents touchent de l'argent de TF1, mais les enfants touchent pas d'argent.
Mais spécifiquement sur YouTube.
Bah, en fait, vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Aujourd'hui, ces pratiques ont tendance à évoluer très très vite. Et ce que vous décrivez, Valérie, ce qu'on appelle le vlogging familial. Et en effet, ça se passe pas uniquement sur YouTube. Ça se passe également sur Instagram et toutes les grandes plateformes. Des familles qui se filment toute la journée et qui diffusent ça sur les réseaux et en fonction du nombre de vues qu'elles obtiennent, reçoivent des sommes plutôt importantes, voire même montent des partenariats avec des marques pour faire des voyages, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe et on en revient, si vous voulez, me semble-t-il, à nous, ce qui va être notre prochain combat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, le droit à l'image des enfants, il est détenu par les parents. Et on pense que ce droit à l'image, il devrait pouvoir être quelque part mis de côté ou suspendu ou confisqué à partir du moment où on estime que les parents font n'importe quoi.
Qui a un droit à l'oubli, ça c'est dans la loi, et c'est plutôt une bonne chose parce que ces gamins qui ont 7-8 ans, parfois moins, vous l'avez évoqué, quand ils en auront 20, 25, 30, on va leur ressortir ces images-là.
Ah bah c'est sûr que pour grandir et se socialiser, voir apparaître des photos de soi sur un pot de chambre, c'est pas toujours très facile pour, par exemple, séduire un petit copain ou une petite copine. On a vu mieux quand même. Et donc, vous avez tout à fait raison. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces images, on sait qu'elles ne disparaîtront jamais. Toutes les personnes qui ont été victimes de revenge porn ou de situations comme ça savent très bien, leur manodou, c'est très bien que faire disparaître des vidéos ou des photos c'est compliqué sur Internet aujourd'hui.
Est-ce que la loi essaye d'encadrer quelque chose qui nous paraît, nous, un peu choquant, mais qui est en fait le monde moderne dans lequel vivent ces enfants? Est-ce qu'on ne va pas empêcher ces enfants d'être avec les outils? C'est une première question. Et une deuxième question, vous savez que Facebook et Instagram a annoncé faire un Facebook que pour les enfants à partir en dessous de 13 ans. Et il va avoir un Instagram qui va s'appeler InstaKid pour eux. Qu'est-ce que vous pensez des GAFA qui ont décidé aussi de créer des réseaux sociaux spécifiques aux kids.
Concernant la volonté d'empêcher, non, parce que si on avait voulu empêcher, on aurait demandé l'interdiction tout bonnement de ce type de démarche. Nous, on a préféré justement laisser faire, parce que je ne crois pas vraiment aux vertus de l'interdiction sur Internet. On sait très bien qu'il y a toujours des stratégies de contournement qui se mettent en place. Ce n'est pas très pédagogique. Nous, on a préféré promouvoir une solution qui consiste à encadrer et protéger. Aujourd'hui, ces enfants peuvent continuer tout à fait légalement cette activité, moyennant juste le respect des horaires de travail, de pas poster un certain nombre plus d'un certain nombre de vidéos et que les parents s'assurent que les sommes sont bien bloquées à la Caisse des dépôts et consignations et que ce soit déclaré en préfecture. Je pense que c'est pas très compliqué à respecter et ça peut permettre de faire en sorte que voilà, ça ne déborde pas et que ça reste de l'ordre du raisonnable. Concernant la question sur Instagram, je sais pas, j'en ai entendu parler également.
Après, c'est la responsabilité des parents aussi. C'est aussi à eux de savoir. Alors parfois, c'est difficile hein, d'imposer des choses ou de résister à la puissance des réseaux sociaux. Mais c'est vrai.
Vous savez que la moyenne d'âge d'un portable chez les enfants, c'est 6 ans. Hein. Ah bon, dès 6 ans, ils ont un portable. C'est à peu près la moyenne d'âge.
Ouais. Nous, qu'on a fait de l'année dernière, montrer 9 ans. 9 ans, mais en tout cas, 9 ans en moyenne pour le premier smartphone en France. Et aux États-Unis, c'est 7 ans.
C'est peut-être aux États-Unis.
Est-ce que vous avez des psychologues à l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique? Qu'est-ce qu'ils disent des conséquences de l'utilisation de ces réseaux sur les enfants? Parce que ce n'est pas sans conséquence. Quand un enfant est en permanence, il doit regarder le nombre de likes, de vues. Ça devient une espèce d'obsession aussi.
Alors, ça va paraître étrange ce que je vous dis, mais à l'observatoire à l'Open que j'ai créé, on est pas, les psychologues qui travaillent avec moi, on n'est pas trop dans l'alarmisme. C'est-à-dire qu'on préfère être dans la responsabilisation. Il y a des choses qui se passent en ce moment dans les espaces numériques, notamment chez les adolescents. On sait que ce sont devenus des espaces de socialisation à part entière. Quand je fais des conférences et que des parents me posent l'éternelle question, est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux enfants? Je dis surtout pas, surtout pas. Aujourd'hui, on sait très bien qu'interdire un réseau social à un adolescent, oui, ça va même au-delà, c'est potentiellement le mettre dans une situation de souffrance, puisque aujourd'hui, tous les ados y sont et ce sont devenus des espaces, des rituels de passage et des espaces de socialisation. Maintenant, il y a une différence entre aller se créer son compte sur les réseaux sociaux et y aller uniquement avec comme objectif d'être connu et de gagner de l'argent. Et ça, c'est vrai que ce type de démarche, plus elle naît tôt, plus on sent bien l'emprise des parents sur les jeunes enfants et leur volonté de leur insuffler cet esprit hyper mercantile qui règne également dans ces univers. Nous, on aime bien rappeler que ce sont avant tout des outils et que tout dépend ce qu'on en fait. Ça permet de générer des manifestations pour la planète ou les adolescents du monde entier.
Il n'y a pas que du négatif.
Exactement. Et donc, d'où la nécessité, en fait, des parents de s'emparer de ces sujets et d'accepter et d'embrasser, j'allais dire, cet enjeu d'éducation qui est incontournable désormais.
Mais si je fais des gâteaux avec mon fils, j'ai le droit? Ou ça vous dérange?
Ah, ça me dérange absolument pas. Vous faites ce que vous voulez. Ouais, vous savez, rien ne me dérange. Ce que je veux dire, c'est quoi?
Vous avez raison d'alerter sur l'exploitation des enfants. C'est le but de la loi. C'est le but de cette loi. C'est une exploitation qui est faite de ces enfants qui gagnent beaucoup d'argent avec la tentation d'aller toujours plus vite, plus loin, toujours plus, quoi.
Exactement. Et puis, vous savez, votre chaîne YouTube avec votre fils pour faire des gâteaux, vous n'êtes pas obligé de la rendre publique non plus, hein. Vous pouvez la réserver uniquement à un membre de votre famille et tout se passera très bien. Et vous protégerez le droit à l'image de votre enfant.
Très bien, merci beaucoup. Merci d'être intervenu ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Thomas Romer, donc fondateur de l'Open, c'est l'Observatoire de parentalité et de l'éducation numérique. Et on peut retrouver votre site sur Internet. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, nous allons commenter l'actualité et en particulier Pierre. Pierre, est-ce que c'est un prénom qui existe vraiment? Allez, à tout de suite.
Réagissez maintenant. Sud Radio 0826 300 300.